Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
S'il est bien un trésor dans la vie, c'est celui de l'amitié. Plébiscité par les Français, l'amitié tient une place centrale dans la vie de beaucoup. À un ami, on se confie, on dit même qu'il nous révèle à nous-mêmes. Et même lorsque l'on est en couple, l'amitié continue d'être un trésor. Que dit la Bible de l'amitié? Que dit l'Ancien Testament? Et que dit Jésus de l'amitié? Dieu a-t-il voulu que l'on ait des amis? Et qu'avait-il donc en tête, si l'on peut dire? C'est ce que je vous propose de voir ensemble ce matin. Cette émission Vivante Église ce matin, que pense Dieu de l'amitié? Tout simplement, pour nous en parler, Jean-Michel Poirier, vous êtes prêtre du diocèse de Montauban, maître de conférence à l'Institut d'études religieuses et pastorales, l'IERP, l'Institut catholique de Toulouse. Vous étiez la semaine dernière dans cette émission, hasard on va dire de la vie, et vous êtes donc l'auteur d'un ouvrage intitulé « Ce que dit la Bible sur l'amitié », paru aux éditions Nouvelle Cité. Il faut dire donc que c'est une série et que vous donc vous abordez le thème de l'amitié. Bonjour.
Bonjour. Oui, il y a 15 jours, effectivement, nous étions à cette antenne pour parler d'une session sur l'art.
L'homme créateur d'art.
Et là, aujourd'hui, effectivement, nous sommes là pour parler de l'amitié, qui est un thème peu souvent, hélas, trop peu souvent fréquenté, je trouve, dans la réflexion chrétienne et dans le message de l'Église. On parle beaucoup de l'amour fraternel, de l'amour de Dieu, bien sûr, de l'amour conjugal, de l'amour en famille. Mais il y a tellement de personnes dans notre monde qui n'ont pas de conjoint, qui peuvent se retrouver seules à un moment ou à un autre, et pour qui l'amitié est quelque chose d'encore plus précieux. Et je crois qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ça fait partie du plan de Dieu, que nous ne soyons pas seuls, mais qu'en dehors des liens familiaux, des liens du sang, en dehors même peut-être des liens de fraternité qu'on peut créer, eh bien, il y a cette amitié qui est...
Alors, on va y venir. Je voulais avant vous poser une question introductive. Que faut-il mettre derrière le mot amitié? Parce que aujourd'hui, on peut mettre derrière cela en fait de multiples choses. Il faut-il faire une différence entre un copain? Déjà, si on commençait par un copain et un ami, à quoi ressemble un vrai ami Facebook? Et quelle différence, on va dire, entre ce copain et l'amitié?
Alors oui, les amis Facebook, souvent on les connaît pas. Hein. On les connaît de nom. On peut savoir des choses sûres, mais la véritable amitié, ça suppose effectivement un vrai compagnonnage. Ça suppose qu'on se voit au moins régulièrement, qu'on puisse s'ouvrir en cœur à cœur. Ça suppose aussi un apprivoisement. Je ne vais pas sortir dans la rue et dire à quelqu'un « Est-ce que vous voulez être mon ami ?» Bon, alors, même en supposant que la personne me réponde oui, faut qu'on fasse connaissance, faut qu'on... Comme le dit le Siracide, ne te fie pas immédiatement à quelqu'un. Un ami, il faut d'abord l'éprouver, mais l'éprouver au sens où une véritable amitié ne peut se décanter qu'au bout d'un certain temps. Alors, vous avez raison de dire que... parler du copain. Hein. Alors, j'ai un chapitre dans cet ouvrage-là où je parle de la réflexion que les parents se font par rapport aux relations de leurs enfants. Ils se méfient des mauvaises relations, mais très souvent du côté de l'enfant, mais c'est plus qu'un copain, c'est un ami. Et alors, qui sont les véritables amis? Quand est-ce que s'arrête le copinage et commence l'amitié? C'est pas clair parce que c'est complexe. Et sur ce thème-là, comme d'ailleurs sur de nombreux thèmes, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'amitié n'est pas... la Bible, excusez-moi, n'a pas un message simpliste. La Bible, d'ailleurs, ne traite pas de l'amitié en tant que telle. Il y a très peu de pages, à part le Siracide, on a très peu de pages spécifiquement consacrées à l'amitié. Mais au fil des récits, notamment, on voit des amitiés se nouer, des amitiés se défaire. Et puis, bien souvent, on se demande, mais est-ce que ce sont encore de véritables amitiés? Est-ce que les amis de Job, par exemple, sont des amis, restent des amis jusqu'au bout? Lorsqu'on voit que David ou certains de ses fils sont des amis, est-ce que ce sont de vrais amis ou de faux amis. Voilà. Et ça, ce sont des questions qu'on peut se poser dans la vie, tout simplement.
Alors donc, pas de réponse claire de la Bible. J'avais une autre question d'introduction. Voilà que je perds le fil de ma pensée. Alors, c'est pas grave. Je vais aller à la question suivante. Dans votre propos introductif, vous, en fait, repartez du récit de la Genèse. Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Et puis, vous dites la chose suivante, c'est que rapidement, on lirait trop rapidement la suite. Et on ne déduirait de ce passage qu'une création en vue d'un amour conjugal.
Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le second récit, en Genèse 2:18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et effectivement, on a l'impression que le fait que Dieu crée l'homme pour la femme et la femme pour l'homme résout le problème. Enfin, dans le second texte, d'ailleurs, il y a un certain temps avant qu'il y ait d'abord un Adam qui est créé, et c'est à son sujet que Dieu dit « Il n'est pas bon que l'Adam, l'humain, reste seul ». Et puis, il va créer d'autres êtres qui sont les animaux, qu'il va amener à l'humain. Il ne trouve pas en lui le secours qui lui soit assorti. Et d'où le fait qu'il va tirer un autre être de son côté, qu'il va lui poser face à lui, et donc c'est l'homme sexué cette fois-ci, et la femme. Et donc effectivement, il semblerait que pour échapper à la solitude qui met en danger le développement de l'humanité de l'homme, il semblerait que la bonne réponse, eh bien, ce soit le partenaire de vie, la femme pour l'homme, ou l'homme pour la femme, et qu'ainsi tout soit résolu. Comme si vous voulez, dans le couple, par exemple, le couple pouvait satisfaire tous les besoins, ou en tout cas les besoins essentiels, on va dire, que peut ressentir chacun de ses membres. Mais alors d'abord, ça pose le problème, et les autres ? Et les autres, il y a plein de gens dans notre monde qui sont amenés à vivre seuls, soit parce qu'ils l'ont choisi, c'est mon cas par exemple.
Soit parce qu'ils le subissent.
Soit parce que pour beaucoup, ils le subissent. Parce que, voilà, seuls au sens où ils ne sont pas dans une relation conjugale. Hein. Et soit parce qu'ils le subissent. On peut penser aussi à des gens qui ont été en couple et qui se retrouvent seuls.
Ou des personnes veuves.
Se retrouvent seuls. Or, en fait, lorsqu'on regarde l'ensemble du message biblique, on s'aperçoit que, en fait, le couple initial ou primordial nous dit qu'en fait, on a toujours besoin d'un autre et on a toujours besoin des autres pour devenir soi-même. Et je ne crois pas qu'effectivement, même dans une relation conjugale aussi accomplie soit-elle, l'autre soit suffisant, ne serait-ce que d'abord parce qu'on a besoin justement de Dieu, hein, qui est l'autre par excellence, mais on a besoin aussi d'avoir des relations, et des relations précieuses, des relations de confiance, des relations de fidélité, et il suffit donc d'ouvrir la Bible pour voir que, en réalité, cela joue son rôle dans l'humanisation de l'homme, et aussi dans le développement de son être de croyant.
Voilà, on a besoin d'un vis-à-vis qui n'est pas forcément, notre conjoint. Alors vous, au début de votre ouvrage, vous faites référence, j'ai oublié de dire, vous êtes bibliste, hein, et théologien, vous faites référence à un certain nombre d'amitiés dont les Écritures parlent, en l'occurrence c'est des amitiés qui sont dans l'Ancien Testament. Moi j'aurais bien aimé que vous nous parliez de Noémie et Ruth, mais ça sera une question plus ouverte. Qu'est-ce que vous citeriez comme amitié qui pour vous est emblématique du projet de Dieu en fait sur l'homme et sur cette amitié, sur ce vis-à-vis dont vous venez de parler.
Alors, tout d'abord, si je peux rectifier légèrement ce que vous venez de dire, c'est pas que dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a des amitiés, j'allais dire,
oui,
humaines.
Mais, non, mais je citais le début de votre ouvrage. Vous parlez de David et Jonathan, Noémie et Ruth, vous parlez des amis de Job, etc.
Lorsqu'on pense à un modèle ou à un bel exemple d'amitié dans l'Ancien Testament, on pense à David et Jonathan. Évidemment, je consacre un chapitre là-dessus.
Alors, resituer du coup, David et Jonathan,
donc
qui sont-ils?
C'est le roi David, et Jonathan, c'est le fils du roi Saül. Donc Saül est le premier roi appelé à régner sur Israël, qui, par bien des aspects, se montre être quelqu'un de maladif, de jaloux, et puis de déficient, voilà. Et il a un fils, Jonathan. Parmi ses fils, il y en a un qui s'appelle Jonathan. Et à plusieurs reprises, Saül cherche à faire périr David. Et à chaque fois, Jonathan va avertir David des projets meurtriers de son père et va autant que faire se peut l'aider à se sauver. Et alors que Jonathan, étant le fils du roi, pourrait peut-être espérer devenir roi après son père, eh bien, il comprend que Dieu a choisi David. Et la thèse que je développe, c'est que chez... autant David a sans doute de l'amitié pour Jonathan, parce que Jonathan lui sauve la mise, lui sauve la tête, en réalité, à plusieurs reprises, autant chez Jonathan, il y a un caractère plus inexplicable, si vous voulez. On ne voit pas tellement quel intérêt a Jonathan dans cette amitié. David, il a de l'intérêt. Mais quel intérêt a Jonathan, finalement, à cultiver cette amitié? Et alors peut-être c'est parce que tous les deux, à un moment ou un autre, sont victimes de la colère de Saül. Jonathan, à un moment donné, lui aussi, est victime de la colère de son père qui veut le tuer. Mais bon, Saül a de temps en temps de ses accès absolument incontrôlés. Hein. Mais je crois que c'est parce qu'il a perçu que le plan de Dieu... que la vue de Dieu, eh bien, c'était que ce soit David qui devienne roi. Et c'est beau, là, c'est un des exemples où on peut penser qu'une amitié se développe, j'allais dire, à l'ombre du projet de Dieu. C'est pas une amitié, en tout cas, dans la geste biblique, ce n'est pas une amitié qui va venir contrarier ou retarder le projet de Dieu. Au contraire, elle va le favoriser.
Voilà, et en l'occurrence, vous dites aussi qu'il y a comme une forme de pacte aussi et d'alliance. Alors, de l'un avec
il y a un pacte qu'il noue devant Yahvé, enfin devant Adonai plutôt, devant le Dieu d'Israël. Et donc, s'ils le font de cette façon-là, si vous voulez, c'est que Dieu est présent, hein, et que ça participe à la réalisation du projet d'Adonai sur Israël. Donc ça, c'est un exemple, mais assez commun. Et alors, effectivement, je propose une relecture du livre de Ruth, qui est un des petits livres de la Bible, qui fait parler des cinq rouleaux, là, celui-ci qu'on lit pour la fête de Pentecôte, parce qu'il est question de la moisson. Et effectivement, dans le livre de Ruth, on pourrait penser que c'est une affaire de famille.
Puisque... Alors, si ça vous embête pas, comme je vois le temps qui passe, le livre de Ruth, on reverra nos auditeurs à la lecture de votre ouvrage, parce que j'aimerais bien que vous nous parliez de Ben Sirac le sage. De Ben Sirac. Donc c'est un autre passage dans les Écritures avec des grands conseils, on va dire, voilà, de alors... sagesse à l'égard de l'ami. J'aimerais que vous nous en releviez quelques-uns. On va dire que pour ceux qui veulent vraiment avoir des amitiés au long cours, il y a là quelques trésors. Alors j'en cite quelques-uns, je vous laisserai compléter. Voilà, un ami, on avance, on va dire, prudemment avec un ami. C'est une alliance qui se noue progressivement, on se garde de la médisance. Il y a comme une forme de pacte de confidentialité. L'amitié se construit sur la permanence. Qu'est-ce que vous garderiez comme conseil de sagesse de ce livre de Ben Sirac avant de faire une première pause à retenir?
Je dirais que Ben Sirac, il met l'accent sur la parole, sur l'importance de la parole. En général, d'ailleurs, dans le livre, hein, les sages d'Israël ont beaucoup de mesures, tout ce que le poids des paroles, si on peut dire. Hein. Et il est très précieux d'avoir quelqu'un à qui on puisse tout dire, à qui on puisse se confier. Vous avez parlé de pacte de confidentialité, et effectivement, il y a ça. C'est-à-dire que l'ami, c'est celui à qui on sait qu'on peut tout dire parce qu'il n'ira pas le répéter. Mais en même temps, c'est ce qui est intéressant, c'est que est-ce que ce pacte de confidentialité, ça ne peut pas devenir à un moment donné un pacte de silence qui va couvrir des fautes? Eh bien non. Parce que, justement, l'ami doit être en capacité de dire à son ami, eh bien, écoute, là, ça ne va pas du tout. Ce que tu es en train de faire, ça ne va pas du tout. Et si vous voulez, la différence entre l'ami, je ne sais pas moi, le collègue ou le supérieur, etc., c'est que, d'abord, l'ami, il sait plus de choses, a priori.
Hein. On se confie des secrets, c'est ce qu'on dit souvent.
On se confie des secrets, enfin, on se confie des secrets, en tout cas, on se confie des choses qu'on ne confie pas à tout le monde. Hein. Et puis, l'ami, il a un devoir de vigilance à porter sur l'autre. Si tu vois que ton ami est en train de commettre le mal, il faut l'avertir. Il faut aller le trouver. Et peut-être n'a-t-il rien fait. S'il l'a fait, qu'il ne recommence plus. Interroge ton prochain, peut-être n'a-t-il pas dit cela. Interroge ton ami, car la calomnie est fréquente. Ne te fie pas tout ce qu'on dit. Donc à la fois, il faut aller vérifier auprès de l'ami si on sait qu'on dit des choses sur lui, mais il faut être capable de l'avertir. Et il y a un proverbe qui dit « Les blessures d'un ami sont loyales, les embrassements d'un ennemi sont trompeurs. » Alors on voit bien, les embrassements d'un ennemi sont trompeurs. En fait, c'est celui qui va venir vous rouler dans la farine, comme on dirait dans le langage populaire. Mais les blessures d'un ami sont loyales, ça veut dire parfois, un ami, on doit être capable de dire une parole qui va peut-être blesser son ami, parce que ça va blesser son ego, moi je ne sais pas, ou ça va lui signaler, parce que tu as dit, là ça va pas du tout. Ou ce que tu es en train de faire, ça ne va pas du tout. Mais ça, c'est nécessaire et c'est indispensable. Et puis ça peut parfois... causer des torts à l'amitié, ou en tout cas, l'amitié peut connaître aussi des froids, parce qu'il y a ce devoir de vérité. Mais finalement, si c'est une véritable amitié, au-delà des désaccords, eh bien, on pourra poursuivre. Mais voyez, c'est intéressant parce que le Siracide, il est fin dans ses analyses. À la fois, il dit « l'amitié, ça n'a pas de prix », on peut tous dire, mais en même temps, il faut aussi s'avertir. Mais aussi, il faut être capable, éventuellement... Voilà, comme les amis de Job, ils vont dire à Job, ben là, ça ne va pas dans ce que tu dis, vous voyez. Finalement, l'ami, ce n'est pas forcément celui qui est toujours d'accord avec vous. Un véritable ami, ce n'est pas celui qui va vous dire, ah ben oui, tout ce que tu dis, c'est vrai. Ah ben oui, tous les autres ont tort. Vous voyez, l'ami, ça va être aussi celui qui va pouvoir vous dire, mais attention là, ce que tu dis, mais ce n'est pas vrai.
Ainsi, la langue de l'homme peut devenir sa ruine quand on s'en sert pour dire du mal des autres. Vous ajoutez, en revanche, des paroles aimables multiplient les amis. Mais si nombreux sont ceux qui te saluent, un vrai conseiller n'est qu'un entre mille. Preuve de la rareté de l'amitié. On va faire une première pause et puis on vous retrouve après autour de cet ouvrage, donc l'amitié, dans une collection aux éditions Nouvelle Cité. Ce que dit la Bible sur, donc en l'occurrence, l'amitié, écrit donc par vous, Jean-Michel Poirier. On fait une pause et on vous retrouve tout de suite.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Que pense Dieu de l'amitié ? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec ce matin dans cette émission, pour nous en parler, Jean-Michel Poirier, qui est prêtre du diocèse de Montauban, maître de conférences à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse, et donc auteur d'un livre sur l'amitié, paru aux éditions Nouvelle Cité dans une collection « Ce que dit la Bible sur ». On s'est dit dans cette deuxième partie de l'émission qu'on allait parler en fait de l'amitié de l'homme avec Dieu. Vous y consacrez quelques chapitres, les amis de Dieu, voilà deux chapitres si je ne me trompe pas, qui fait écho alors un autre livre, hein, cette fois de Monseigneur Le Gall. Alors c'est pas ce que vous souhaitiez, mais je le cite au passage, les premiers amis de Dieu, un très beau livre. Le premier ami de Dieu, en l'occurrence, ce serait Abraham. Racontez-nous comment Dieu tout d'un coup s'est choisi un ami, et comment peut-on dire qu'Abraham a été le premier ami de Dieu? Alors, pourquoi peut-on dire que Abraham a été le premier ami de Dieu ?
Alors, on peut le dire parce que on le dit, enfin, la Bible elle-même l'affirme à un moment donné, au sujet donc d'Abraham. C'est Isaïe qui dit: toi Israël, mon serviteur, toi Jacob, que j'ai choisi, descendants d'Abraham, mon ami. Toi que j'ai tenu depuis les extrémités de la terre. Alors c'est vrai qu'on dit mon ami, en réalité en hébreu vous avez que j'aime. Mais justement ce verbe aimer est utilisé, il faut voir évidemment à chaque fois le contexte, mais est utilisé aussi pour dire l'amitié. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on peut parler de l'amour d'amitié de ce point de vue-là.
Comment vous le dites en hébreu? C'est
Ahav.
Ahav.
Alors il est vrai que... je me rappelle lorsque j'étais bien plus jeune, parfois... on se moquait de ce chant de catéchèse. Il cherchait un ami et Jésus est passé. Et voilà, et Jésus est passé. Ils cherchaient un ami dans leur vie. Enfin, et Jésus est passé. Voilà. Et alors on disait oui, mais enfin Jésus, c'est pas le copain. Comme si l'amitié s'était dévalorisée. Or en fait, ami, c'est un titre très noble dans la Bible. Et ami n'est déjà entre hommes, on ne donne pas le titre d'ami à de très nombreuses personnes, ou en tout cas celui qui a de très 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 nombreux amis, en réalité, on ne sait même pas s'il en a de véritables. Des vrais amis, comme souvent je l'ai entendu dire, les vrais amis, on les compte sur les doigts d'une main. Bon, parfois, éventuellement un peu plus, mais voilà. Et donc, le titre ami, c'est vraiment si important que du coup, qualifier quelqu'un d'ami de Dieu va d'abord être réservé à quelques personnes personnage exceptionnel, donc Abraham le premier, effectivement, et puis ensuite Moïse.
Alors pourquoi peut-on dire de...
Alors écoutez, vous lui demanderez à Dieu quand vous le rencontrerez, n'est-ce pas?
J'ai cru comprendre, parce qu'il a choisi de faire confiance à Abraham aussi.
Non, plutôt, j'aurais envie de vous dire, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'Abraham est ami de Dieu? Alors pourquoi est-ce qu'il l'a choisi lui? Ça fait partie du mystère de Dieu. L'élection d'Israël, par exemple, relève... On dira, c'est pas à cause de ses qualités nécessairement, mais ce qu'on
donc dans l'amitié avec tester, Dieu, c'est toujours Dieu qui a l'initiative. C'est la première chose qu'il faut peut-être préciser.
Alors c'est d'abord Dieu, effectivement, c'est d'abord Dieu qui a l'initiative. Ensuite, on peut dire c'est pas forcément pour des qualités intrinsèques. En tout cas, c'est pas la première raison. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Dieu traite Abraham comme un ami. Alors, par exemple, lorsqu'il vient le visiter à Mambré. Cette scène si souvent représentée dans l'iconographie, je pense évidemment à la très belle icône de Roublov. Vous savez, ces trois personnages qui viennent à l'heure de midi. Et ensuite, quand ils repartent, Dieu, les deux des personnages, deux anges, vont se diriger vers Sodome que Dieu a l'intention de détruire. Et à ce moment-là, le récit nous fait entrer en quelque sorte dans la pensée de Dieu. Et Dieu dit: vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire à Sodome? Et on a presque l'impression, c'est assez troublant, que Dieu, il a besoin d'avoir des amis, si vous voulez. Il a besoin d'avoir des personnes de confiance à qui il peut tout dire. Et Abraham, il le traite vraiment comme un ami. Il lui confie, alors progressivement, certes, hein, il l'éprouve aussi, comme on éprouve un ami dans le temps. Mais il finit par lui confier, alors d'abord par la parole, il lui confie son projet, mais en même temps, il est celui à qui il va faire totalement confiance. Malgré les fragilités que, comme tout homme, comme tout humain, traverse Abraham. Et donc, il va lui confier cela. Et alors, dans la fameuse épreuve où il vient, où il demande à Abraham de lui offrir Isaac, je crois que là aussi, il le traite vraiment comme un égal. C'est-à-dire qu'il rend Abraham capable de lui donner ce qu'il a de meilleur. Parce que dans une amitié, il y a aussi un échange. Un ami qui dépendrait totalement d'un autre, est-ce que, vous voyez, il y aurait quelque chose d'un petit peu faussé dans cette relation. Et là, si Dieu nous traite comme des amis, ça veut dire qu'il peut tout nous dire, mais en même temps, il attend beaucoup de choses de nous. Et de la même façon, lorsque Jésus va dire « je ne vous appelle plus serviteur, mais ami », il va dire ça parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Donc vous voyez, il y a le fait que Dieu, on dirait d'une certaine façon, il a besoin d'avoir des personnes à qui il peut tout révéler. Alors, à qui il peut tout dire et à qui il peut faire confiance.
Si vous continuez avec ces premiers amis de Dieu, donc, on pourrait donc citer Moïse également.
Moïse, oui, bien
voilà,
sûr. Oui.
Et puis d'autres. Est-ce que Dieu se révèle, on va dire, progressivement, ou est-ce qu'il devient de plus en plus profondément, en fait, ami avec les hommes à travers ces premières grandes amitiés, et quel est un peu le chemin de l'amitié de Dieu au ce début de
alors,
la révélation chrétienne?
Alors, je vais vous répondre absolument. Absolument. C'est-à-dire que de la même manière que le Siracide nous dit, ben voilà, si tu veux te faire un ami, il faut l'éprouver. L'amitié, elle demande du temps. Enfin, c'est la leçon du petit prince, là, de Saint-Exupéry. Il faut s'apprivoiser. Et bien, on a l'impression que Dieu, il demande du temps aussi. Abraham, il faut du temps avant qu'il devienne l'ami de Dieu. Moïse, il faut du temps avant qu'il devienne l'ami de Dieu. Parce que, d'abord, Dieu laisse du temps à ces personnes pour le reconnaître, pour l'aimer, pour se mettre à leur service. Et peut-être aussi, il les fait passer par une série d'épreuves. Vous savez, Dieu, il éprouve. Il éprouve ceux qu'il aime. Et ça, je dirais que ça fait partie un petit peu aussi de l'amitié. C'est-à-dire, ben voilà, il y a besoin aussi parfois de savoir si on peut compter sur lui ou pas.
Alors j'entendais aussi la manière dont Dieu se révélerait de plus en plus profondément. Il s'est révélé peut-être encore plus qu'il ne s'est révélé à Abraham et ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a derrière ça la question, enfin l'idée qu'on s'en fait. On parlera de Jésus à la fin de l'émission, mais que Dieu s'est révélé petit à petit comme Dieu unique, après comme Père, après comme...
Oui, il y a une économie de la révélation.
Voilà.
Il y a une économie
Est-ce qu'on peut dire la même chose dans l'amitié, quelque part?
Il y a une économie de la révélation. Oui, on peut dire la même chose dans l'amitié, bien sûr.
Dans l'amitié avec ses premiers amis. Et qu'est-ce que Dieu révèle petit à petit de lui-même à ses amis?
Alors, bon, la question est vaste. Hein, parce que... Mais on peut dire qu'Abraham, il se révèle comme étant le Dieu qui chemine avec lui, comme étant le Dieu qui lui promet et qui réalise déjà à partir de lui que la vie est plus forte que la mort, qu'il n'est pas, lui, un Dieu lié à une cité, mais qu'il l'accompagne au long de ses pérégrinations, et que Dieu confie à un homme le soin de lui constituer un peuple. Et ça, c'est extraordinaire si vous y pensez. Et en plus, de plus, il prend pour cela un homme qui est stérile, enfin du moins qui est stérile, enfin dont l'union avec sa femme est stérile. On pourrait choisir mieux, hein, pour se constituer un peuple. Comme l'écrira Paul aux Corinthiens, Dieu n'a pas choisi les puissants, hein, mais il a choisi des faibles, etc. Et c'est progressivement qu'il va se révéler à lui. Alors, même chose pour Moïse. Hein. Moïse, il va prendre quelqu'un qui a des capacités, qui a déjà tout un passé, mais qui, lui aussi, c'est vrai qu'il y a une force chez Moïse, mais il y a aussi des fragilités, il y a aussi des limites dans la personne. Mais là aussi, ce n'est que progressivement qu'il va se révéler à lui. Il y a une progression dans cette... et puis, il y a du temps, surtout. Il faut du temps dans l'amitié.
Est-ce qu'il n'y a pas une plus grande intimité? C'était un peu le sens de la question.
Il y a une plus grande
aussi.
Intimité, bien sûr. Il y a une plus grande... Alors, avec
cette
Moïse, avec
cette
Moïse,
fameuse
par
brise
exemple,
légère, voilà, il ne le voit pas face à face, mais tout
Alors,
près.
C'est vrai que Moïse, presque, il a ce privilège. L'épître de Jacques, il dira que Moïse, que Dieu connaissait, enfin, qui connaissait Dieu face à face. Bien que Moïse, lorsqu'il veut voir Dieu face à face, finalement, il ne le verra que de dos. Mais n'empêche qu'il a une intimité absolument unique et privilégiée avec Dieu, au moins par rapport à ses contemporains. Et c'est vrai que là, on pourrait se dire, à ce point-là, oui, mais alors, il y en a qui sont des privilégiés quand même. Donc Dieu ne choisirait que quelques-uns pour être ses véritables amis. Alors c'est vrai que dans l'histoire du salut, il choisit des témoins. Mais les psaumes nous assurent que finalement, tout fidèle va pouvoir finalement...
Alors j'allais venir, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu des psaumes. Vous avez d'ailleurs un chapitre qui s'appelle « Les amis de Dieu, l'Israélite pieux ».
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a comme une forme de démocratisation de l'amitié de Dieu, si je voulais. Ou en tout cas une amplification, c'est-à-dire qu'au départ, Dieu en choisit quelques-uns, mais finalement, tous ceux qui rentrent dans l'Alliance, tous ceux qui sont ses fidèles, ils peuvent considérer Dieu comme un ami. Ils peuvent s'adresser à lui comme on s'adresse à un ami. Et pas comme, parce qu'il est un ami. Et c'est vrai que j'ai relevé dans les psaumes un certain nombre de passages où le psalmiste s'adresse à Dieu comme à un ami. Et j'évoque, je crois, à un moment donné, vous savez, ce mot du curé d'Ars qui avait interrogé un paysan qui venait dans son église et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans l'église ?» Enfin, il voyait bien qu'il priait. Mais... Et ce paysan lui a répondu « Oh, je m'adresse à Dieu, je l'avise et il m'avise. » Vous voyez, il y a ce... Le fidèle, il peut tout dire à Dieu. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui, pour nous aujourd'hui, est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que même si je me sens seul, même si je suis trahi par mes amis ou si j'en ai pas sur le moment, je peux m'adresser à Dieu. Parce qu'il est mon ami.
Même si je n'ai pas l'impression qu'il m'a choisi de manière particulière, et que j'ai une intimité extraordinaire avec lui.
Mais il m'a choisi parce qu'il s'est révélé à moi, finalement. Si vous voulez, dans l'histoire du salut, on s'est aperçu qu'il n'y a que quelques personnages au début, comme vous l'avez bien dit, mais qu'ensuite, ça s'élargit. Et que finalement, tous ceux qui entrent dans une relation de foi sincère et qui entrent dans cette véritable alliance avec Dieu, eh bien, ils peuvent trouver en Dieu un ami. Alors, l'ami, c'est celui à qui on peut tout dire, mais c'est aussi l'ami qui va vous secourir. Et notamment lorsque toutes les relations humaines vous font défaut, lorsqu'éventuellement les amis vous trahissent, lui, Dieu, il reste fidèle. Alors c'est vrai que saint Bernard dira par exemple que Dieu demande à être craint comme père. Il y a un second terme, et le troisième terme, il dit, il demande à être aimé comme un époux. Parce qu'il commente le cantique des cantiques. Mais je dirais qu'il demande aussi à être aimé comme un ami. Et on peut l'aimer comme un ami. Et qui est une relation un peu différente, vous voyez, de la relation qu'on a avec le Seigneur.
Alors justement, avant qu'on fasse une deuxième pause, j'aimerais que peut-être vous rebondissiez, ça tombe très bien, vous faites une introduction à ma question. On peut être perdu ou admiratif de ses amitiés, admiratif le mot est faible, de ses premiers amis de Dieu, que sont donc Abraham, Moïse, Jacob, etc. On peut lire les psaumes et puis peut-être croire ou essayer de croire qu'on se confie à Dieu comme un ami, mais on peut être aussi perdu parce que Dieu offrira des visages très contradictoires. Le père, l'ami, l'époux, c'est pas tout à fait la même chose.
Alors, ça dépend peut-être aussi des moments. C'est vrai que Dieu est si grand, si vous voulez, que d'abord nul mot ne peut le définir, et la relation avec lui est si riche qu'aucun angle, si vous voulez, aucune image ne peut parfaitement décrire la richesse de cette relation. Donc c'est vrai que par certains aspects, il faut craindre Dieu comme un père, il faut le respecter parce qu'il est notre Seigneur, on peut l'aimer comme un époux, mais on peut aussi le considérer comme un ami. Moi personnellement, c'est tout à fait personnel, je suis beaucoup plus à l'aise, si vous voulez, à considérer que Dieu est un ami plutôt qu'un époux. Mais parce que peut-être je ne suis pas marié et que la relation d'époux-épouse m'est moins évidente. Mais j'ai moins de facilité à considérer Dieu comme un époux qu'à le considérer comme un ami. Et parce que j'ai peut-être aussi la chance et la grâce d'avoir dans ma vie des amitiés humaines qui me sont fondamentales et dont j'ai vraiment humainement besoin et qui m'aident à vivre.
Dernière question pour prolonger un peu celle que je viens de vous poser. On peut entendre que Dieu se serait révélé progressivement, et on en parlera après la seconde pause musicale, quand Jésus, en fait, Dieu se révèle, on va dire, jusqu'au bout. Et qu'il y aurait eu comme une pédagogie de Dieu. C'est comme ça parfois qu'on explique certains passages de l'Ancien Testament. Si j'ai bien compris, Dieu se serait révélé père et puis de plus en plus proche, jusqu'à être potentiellement cet ami qu'on peut voir en Jésus. À vous entendre, en fait, dès le début, Dieu se serait révélé comme un ami, à l'image de ses premiers amis de Dieu.
J'aurais envie de vous dire qu'effectivement, ces catégorisations, là, en disant l'Ancien Testament, il se révèle comme Père, ensuite il se révèle en Jésus, puis après viendrait le temps de l'Église où ça serait l'Esprit. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec ce genre de... Par exemple, l'incarnation, c'est quoi ? Si on dit c'est Dieu avec nous, on n'a pas attendu Jésus pour que Dieu soit avec nous. Le Dieu qui vient faire sa demeure au milieu du peuple, qui vient cheminer avec lui, c'est déjà dans la première alliance. Le Dieu qui reste pas sur sa montagne, mais qui voit et qui l'entend, on l'a déjà dans la première alliance. Et si je puis dire, déjà dans le jardin de la Genèse, Adam et Ève, ils sont dans le jardin où Dieu vient se promener le matin, à la brise du jour. Donc il y a cette proximité avec Dieu. Alors c'est vrai que le péché brise cette proximité et provoque un éloignement. Mais c'est beau de voir que à la fois Adam et Ève sont expulsés du jardin d'Éden, mais par la suite, dès le chapitre suivant, eh bien Dieu va parler à Caïn, quand bien même celui-ci a tué Abel, et va mettre un signe sur lui pour éviter qu'il ne soit tué partout. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une relation à Dieu, et ça c'est vraiment une des grandes forces du message biblique. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu impersonnel, c'est pas le grand architecte du monde, même si c'est lui qui est créateur, c'est pas simplement celui qui donne des lois et puis qui nous attend au bout de la route, mais il est celui avec qui on peut tisser des relations personnelles, des relations intimes, des relations de confiance, des relations existentielles, quotidiennes. C'est celui qui est avec nous. Voilà, comme on souhaiterait l'avoir, cette présence d'un ami. Et ça, je crois que ça, c'est aujourd'hui, plus que jamais, un message toujours d'actualité. Hein. Ce Dieu, c'est un Dieu qui vient avec nous et qui chemine avec nous.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour parler peut-être un peu plus rapidement du Nouveau Testament, de la figure de Jésus et de ce qu'elle nous dit de l'amitié. Je rappelle le titre de votre ouvrage pour ceux qui nous quitteraient maintenant. L'amitié dans la collection Ce que dit la Bible sur, paru aux éditions Nouvelle Cité.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Que pense Dieu de l'amitié ? C'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin, en ce lundi, avec donc comme invité pour ceux qui nous prendraient en cours de route, Jean-Michel Poirier, prêtre du diocèse de Montauban, maître de conférence à Lierre par l'Institut catholique de Toulouse et auteur donc d'un ouvrage, L'amitié, paru aux éditions Nouvelle Cité dans une collection Ce que dit la Bible sur. Ça, c'est pour l'introduction pour ceux qui prendraient l'émission maintenant. Dans cette dernière partie, on s'est dit qu'on allait se pencher sur la figure de Jésus. Voilà, importante s'il en est évidemment pour les chrétiens, et voir ce que Dieu nous dit, ce que Jésus nous dit de l'amitié. Vient-il compléter ce que l'Ancien Testament a pu dire de l'amitié ? Est-ce que Dieu révèle quelque chose, on va dire, de plus ? Alors, au début d'un de vos chapitres, les amis de Jésus, vous avez une belle question, je pense qu'on se pose pas souvent, à propos de la vie cachée de Jésus. Alors, vous avez probablement pas la réponse, hein, quoique peut-être que les biblistes et les exégètes sont tellement habitués à lire entre les lignes qu'ils ont des réponses impossibles. Vous dites la chose suivante: a-t-il noué des amitiés à Nazareth? C'est vrai que c'est une bonne question pour un chrétien. On se dit que Jésus était homme et Dieu, mais si la condition de l'amitié, c'est de pouvoir se faire confiance et être en intimité, ça ne va pas être facile d'être ami avec Jésus dans la cour de récréation. Alors que vous pouvez-vous dire ou esquisser comme réponse
sur ce
sujet?
De fait, les évangiles ne nous en disent rien. De Nazareth, on ne nous parle que de sa famille, et avec laquelle Jésus prend une sacrée distance. Ce qu'on peut inférer, si vous voulez, c'est que vu l'équilibre humain de Jésus, il s'est forcément construit avec des relations d'amitié. Mais c'est vrai que les amitiés de Jésus dont on nous parle sont les amitiés qu'il noue pendant la phase de sa vie publique. Sur la vie privée, enfin la vie à Nazareth, c'est vrai qu'on n'a pas de renseignements. Et sur la vie publique, c'est pas une biographie de Jésus, hein, les évangiles ne sont pas des biographies de Jésus, on ne nous dit pas tout sur Jésus. Et donc si on parle des amitiés, j'allais dire humaines, qu'il a pu nouer, c'est parce qu'elles ont une portée bien plus qu'anecdotique. Alors, il y a ainsi une fratrie qui est bien connue de
Marthe, Marie,
voilà, et Lazare.
Alors
voilà.
Parlez-en-nous, parce que à vous entendre, c'est vraiment les amis de Jésus chez qui il avait l'habitude d'aller s'arrêter.
Voilà, alors bon, les évangiles les situent pas nécessairement tous au même endroit, mais en tout cas dans l'évangile de Jean, il les situe à Béthanie, et Béthanie c'est tout près de Jérusalem, et on peut penser que lorsqu'il est monté régulièrement en pèlerinage à Jérusalem, comme il était un Galiléen qui n'avait pas beaucoup d'argent, il ne pouvait pas se loger dans Jérusalem. On estime qu'à l'époque, à Jérusalem, la population pouvait décupler pendant les fêtes de pèlerinage. Donc tout le monde ne pouvait pas loger dans la ville. Et Béthanie était sur la route qui montait depuis Jéricho. Donc il a dû un jour s'arrêter chez eux. Et puis il a été accueilli, et puis finalement il revenait là le soir. Et c'est vrai qu'on a plusieurs scènes. Alors il y en a une, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est une scène, alors pas celle avouée à Lazare, mais où Marthe et Marie accueillent chez elles, en l'occurrence, là, Jésus. Puis vous savez, c'est le moment où Marthe s'affaire pour préparer le repas. Et puis Marie, elle, est assise au pied de Jésus et Marthe lui dit, mais enfin, tu pourrais pas dire, s'adressant à Jésus, lui dit, mais tu pourrais pas dire à ma sœur de m'aider. Et Jésus répond, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire, c'est bien Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Alors moi j'ai une interprétation qui m'a été ouverte ici par un philosophe
très intéressant,
qui s'appelle Jean-Louis Chrétien. Qui par ailleurs est chrétien, mais enfin bon, et qui a fait un très beau livre qui s'appelle L'Arche de la Parole. Alors réfléchissant sur le phénomène de la parole, il écrit, mais c'est d'ailleurs au début de son livre, pour pouvoir parler, il faut encore pouvoir être écouté. Et en fait, c'est l'écoute véritable qui va développer chez nous la capacité de parler. Mais pas simplement le langage, hein, mais de pouvoir se confier. Et c'est vrai que dans l'amitié, il y a une... Pourquoi est-ce qu'on peut parler à un ami? C'est parce que l'ami, il vous écoute. Et Jésus, il a eu besoin humainement d'avoir des personnes qui l'écoutent. Et c'est pour ça que Marie, elle lui offre une écoute. Et Jean-Louis Chrétien a cette merveilleuse expression, disant « la première hospitalité, c'est celle de l'écoute ». Et je pense que tous ceux qui travaillent dans la solidarité, ils savent bien que la première chose que demande quelqu'un qui vient vous demander un service, c'est peut-être et d'abord de l'écouter.
Si vous permettez, je cite un autre passage. « De toutes les autres hospitalités, elles forment la condition car amer est le pain que l'on mange sans que la parole ait été partagée. Dur et lourd d'insomnie sont les lits où l'on se couche sans que notre fatigue ait été accueillie et respectée. » Donc ça, c'est sur
ça,
les...
C'est Jean-Louis Chrétien et c'est merveilleux ce qu'il écrit.
C'est sur les amitiés de Jésus. Alors, Jésus donc, avait des amis, hein, en tout cas...
Oui, alors il y a une autre célèbre amie qui est Marie de Magdala. Là aussi... Qu'est-ce qu'on n'a pas pu raconter sur les relations de Marie et de Jésus? Mais Jésus avait des amitiés. Et de fait, même parmi les 12, on voit bien que parmi ses disciples, il avait des relations, on va dire, privilégiées avec certains. Mais pas au détriment des autres. Mais Jésus, en tant qu'homme en tout cas, avait besoin de pouvoir se confier à des amis. Ça me touche beaucoup, cet aspect-là de l'humanité de Jésus. Mais ça, c'est, je dirais, le Jésus-homme. Après, c'est vrai qu'au cours du dernier repas, selon l'évangile de Jean, il va s'adresser à ses disciples, il va leur dire « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. » J'ai fait référence tout à l'heure. Hein. Et il va en dire la raison. C'est parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai confié. Et à ce moment-là, les 12 sont invités à se reconnaître comme étant amis, et pas simplement des disciples de ceux qui suivent le Maître, des auditeurs qui suivent l'enseignant, ou même de ceux qui servent le projet de Dieu. Mais d'une certaine manière, Jésus les place pratiquement au même niveau que lui. Ils deviennent ses amis. Il peut tout leur confier, il peut tout leur dire, et bien entendu vice-versa. Et c'est un moment dramatique quand même, parce que c'est le soir même où il fut livré. Et il y a quand même un aspect un peu tragique dans cette affaire-là, parce qu'il leur dit « je ne vous appelle plus serviteur mais ami » au moment même où l'un de ces 12...
À qui il vient de dire ça,
va le trahir, le livrer au grand prêtre. Un autre qui dit « mais moi, je serai toujours avec toi jusqu'au bout, même si tous les autres te lâchent », va le renier.
Un autre qui était un de ses confidents, en plus.
Et Pierre va le renier quelques heures après. Et puis les autres, à part dans l'évangile de Jean, le disciple bien-aimé, les autres, on ne les voit pas pendant la Passion. Ils ne sont pas au pied de la croix. Et malgré tout, Jésus, il le sait, il le pressent, puis il a cette vive conscience. Et malgré tout, il leur dit « vous êtes mes amis ». Et je pense qu'ils n'ont pas dû comprendre sur le moment ce dont ils parlaient en réalité. Et ce n'est que plus tard qu'ils comprendront. Alors moi, si on peut dire juste un tout petit mot sur Judas.
Allez-y, excusez-moi, j'avais juste peut-être une question, alors peut-être que vous intégrerez Judas à l'intérieur de ça. La question quand même de fil rouge de cette troisième partie, c'est de se demander ce que Jésus vient nous révéler de l'amitié. Alors si vous deviez faire écho à ce passage, justement, où Jésus, comme révèle cette amitié quelque part à ses disciples, qu'est-ce que Jésus vient apporter de plus? On entend toujours que Jésus vient tout accomplir, tout révéler. Or, à vous entendre tout à l'heure, Dieu s'était déjà choisi des amis, en Abraham, en Moïse, en Jacob. Alors, quelle est la nouveauté?
Est-ce que la nouveauté, c'est en termes de plus? Ou non pas plutôt d'un approfondissement, mais ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, d'un approfondissement progressif. On a l'impression qu'on descend de plus en plus profond. Alors, c'est vrai que lorsque Jésus dit ça, à la fois c'est l'homme Jésus, mais bien sûr, c'est le Fils de Dieu qui dit ça. Et il le dit au moment où il donne totalement sa vie pour eux. Et un véritable ami, c'est celui, au bout du compte, qui est capable de donner sa vie. Et on pourrait dire que de ce point de vue-là, l'ami, si je me place du point de vue des disciples maintenant, non seulement Jésus leur a dit tout ce qui, etc., etc., leur a dit tout ce qu'il a entendu dire du Père, leur a tout confié, mais il leur donne à ce moment-là sa vie. Ils reçoivent le sens même profond de leur existence de Jésus. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'unique, vous voyez. C'est quelque chose d'unique. Le sens de ma vie, je le construis, je parle d'un point de vue humain, je le construis avec mes amis, mais c'est vrai que j'en reçois des éléments par eux, mais je ne peux pas dire véritablement d'un de mes amis aussi précieux soit-il, que c'est lui qui donne totalement sens à ma vie. Ça, je peux le dire seulement de Jésus. Et c'est, je vous parle moi Jean-Michel Poirier, je veux dire de ma vie à moi. Ma vie, le sens de ma vie, c'est Jésus seul qui me le donne. Alors, c'est vrai que encore une fois, on a besoin d'amitié humaine, mais je crois que y compris dans la famille chrétienne, enfin dans l'Église, je vais avoir des frères, je dois reconnaître en tout autre un frère, je vais pouvoir peut-être aussi dans la famille chrétienne nouer des amitiés. Mais finalement, au bout du compte, l'ami dont je pourrais dire c'est lui qui donne sens à ma vie, c'est lui dont je reçois la vie, ça je ne pourrais le dire que de Jésus. Et du coup, à ce moment-là, on voit comment ces expériences d'amitié que nous faisons, cette amitié donc philia en grec, nous conduisent à mieux vivre, à mieux comprendre cette relation unique, privilégiée, indépassable et merveilleuse que nous avons avec le Seigneur.
Et est-ce que Jésus vient nous introduire aussi à une plus grande dimension de l'amitié? Faut-il être prêt à donner sa vie pour ses amis, comme il est dit à un moment dans l'Écriture? C'est plutôt quelque chose qu'on envisage de la relation conjugale, pour revenir à votre première interrogation.
Par exemple, de la relation conjugale ou des parents pour leurs enfants.
Voilà, ça paraît plus...
Mais regardez, l'histoire abonde, finalement, de toute ces exemples, ces merveilleux exemples de personnes donnant leur vie par amitié. Et c'est vrai que l'amitié, elle peut aller jusque-là. Elle peut aller jusque-là, jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà.
Mais est-ce à dire que Dieu nous invite à cela ? C'est-à-dire qu'à un au-delà, justement, de l'amour conjugal ou à donner sa vie.
L'amour plaigné, excusez-moi, c'est quand même l'agapé. C'est-à-dire que je crois que l'amour conjugal et les relations amicales que nous pouvons nouer sont deux voies royales qui nous mènent vers l'amour plaigné. Mais l'amour plaigné et l'amour total, moi, je crois que c'est seulement en Dieu qu'on peut le vivre. Mais c'est vrai que si on le reçoit dès maintenant de Dieu, il peut irriguer aussi bien l'amour conjugal que les relations amicales. Et je crois que dans la foi, on peut recevoir des amis. Ou plutôt, on pourrait presque dire, vous savez, le Siracide le dit, donc il faut éprouver un ami. Et on peut se demander, est-ce que quelqu'un est véritablement mon ami ou pas ? Et je crois que dans la foi, un chrétien, il peut demander à Dieu cela, de lui révéler, est-ce que telle personne, c'est vraiment un ami ? Est-ce que je peux vraiment compter sur cette personne-là ? Et je crois que d'une certaine manière, savoir que Jésus est l'ami unique va m'aider à vivre de manière sans doute plus authentique les véritables amitiés. Et puis je voudrais terminer en disant que l'amitié, c'est comme la relation conjugale, c'est-à-dire que ce n'est pas un vis-à-vis, mais ensemble, on regarde vers un troisième terme. Et si ce troisième terme, c'est-à-dire ce but, ce vers quoi nous marchons, si on le voit dans une dimension croyante, bien sûr, en Dieu, je crois que ça peut nous aider à vivre de manière plus saine encore et plus authentique nos amitiés humaines, y compris d'ailleurs avec des non-croyants.
Alors pour finir, dernière question, je vais vous donner le choix entre deux, soit vous reparler de Judas parce que vous vouliez en parler, soit j'avais une autre question. Peut-on vivre sans amis ? Et j'entends par là, pour être plus précis, ce qu'on a entendu au long de votre intervention, c'est que de même que Dieu se choisit des amis pour se révéler, a-t-on immanquablement besoin des amis pour que Dieu se révèle à nous ? Est-ce que c'est ça aussi, on va dire, le plan de Dieu sur l'amitié ? C'est-à-dire que Dieu parlerait quelque part par des bornes entre guillemets ou par des visages au long de notre vie, et que c'est ce qu'il faudrait, c'est là aussi que Dieu nous attendrait, peut-être pas en premier, mais une des premières manières pour Dieu de parler.
Dieu se révèle à nous de multiples façons, mais notamment dans les relations humaines. Alors c'est vrai que dans l'amour conjugal, chacun est devient une icône de Dieu pour l'autre, hein. Les parents le sont d'une certaine façon, les premiers révélateurs de Dieu pour leurs enfants. Il est vrai aussi qu'au sein de la communauté chrétienne, dans l'expérience de fraternité que nous pouvons vivre, chacun porte Dieu à l'autre. Mais je crois que l'amitié est aussi une voie que Dieu a choisie pour, en tout cas, pouvoir nous aider à vivre plus paisiblement, à vivre notamment dans les périodes les plus troubles de nos existences. Et je crois que c'est un des lieux de révélation de l'amour de Dieu, cet amour d'amitié, y compris, j'insiste là-dessus, avec des non-croyants. C'est-à-dire que moi, chrétien, je peux nouer des relations d'amitié avec quelqu'un qui a une autre foi ou qui est complètement athée, et Dieu me révèle quelque chose de lui à travers cette relation.
Eh ben merci beaucoup Jean-Michel Poirier d'être venu ce matin au micro de l'émission Vivante Église. Une dernière fois, je rappelle le titre de votre livre, L'Amitié, paru aux éditions Nouvelle Cité dans une petite et belle collection, Ce que dit la Bible sur. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.